Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Paris, c'est l'émission Chute pas trop fort dans vos oreilles, il est 8h.
Ma morning routine est très chaotique.
Je reste toute la matinée sur TikTok.
Je suis assez désordonnée.
J'ai 4 musiques différentes pour 4 réveils différents.
Je vais prendre un café au lait, très important.
Puis je bois mon café.
J'essaie toujours d'avoir le temps de manger parce que j'aime bien manger.
Café cigarette, le meilleur des petits déjeuners.
Puis en fait je reprends un café.
Et après je vais me doucher et ensuite généralement je pars.
C'est la course, mais je suis jamais en retard.
De 8h à 9h, Chute pas trop fort sur Radio Campus Paris.
Et ce programme vous est présenté par Mansata et PA. Bonjour Mansata.
Bonjour PA.
Au sommaire aujourd'hui, foule de chroniqueureuses et journalistes. Bonjour.
Bonjour.
Dans un instant déjà, nous accueillerons Akina, qui nous parlera de Minecraft et des liens de ce jeu vidéo avec la politique et le militantisme. Après cela, les prévisions météo avec Lucie, avant de la retrouver dans Mon mémoire en 60 secondes. Son invité d'aujourd'hui est Aristide Landé, étudiant à l'EHESS en études politiques dans sa deuxième année de master.
50 heures devant CNews. Mathis est dévoué pour nous et nous le racontera à 8h20.
Après le flash de 8h30, et parce que nous sommes à 100 jours des JO Olympiques et Paralympiques de Paris, nous dédierons notre émission au sport.
Les athlètes seront de la partie avec Ninon, qui mettra la lumière sur la santé mentale des sportifs et sportives. À 8h40, la militante anti-validiste Odile Morin est l'invitée de notre émission. Avec elle, on parlera de l'accessibilité de ces Jeux de Paris, alors que les pouvoirs publics promettent des sites olympiques ouverts aux 350 000 personnes en situation de handicap, attendues dans le public des Jeux cet été.
Et enfin, elle aura lu la presse pour vous. Akina nous proposera une revue de presse de ce mercredi 17 avril 2024. Vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
Chut, pas trop fort, la matinale de Radio Campus Paris, de 8h à 9h. Et tout de suite, le flash avec Mansata.
L'année 2024 fête le 80e anniversaire de la bataille en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Une commémoration internationale est prévue pour juin avec la présence initiale des chefs d'État impliqués. Cependant, la Russie, bel et bien invitée, sera représentée sans son dirigeant. Poutine est décliné en raison de la guerre d'agression, comme on l'appelle, en Ukraine. Une nouvelle fusillade à Nîmes, hier dans la soirée, a fait 5 blessés. Dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, le feu a été ouvert par plusieurs personnes à bord d'un véhicule. Heureusement, pas de mort cette fois-ci. En effet, dans ce même quartier, on recense 2 autres fusillades depuis le début de l'année, une en février et une seconde en mars dernier. La police enquête toujours sur l'identité des tireurs. Inquiétant, c'est l'adjectif utilisé par les scientifiques et autorités australiennes concernant le blanchissement massif de la Grande Barrière de Corail dans le nord-est de l'Australie. Effectivement, la Grande Barrière subit aujourd'hui sa pire crise de blanchiment jamais enregistrée. Pour nos éditeurs, le blanchissement corallien est une réaction face à différentes sources de stress, comme les changements de température ou l'acidification, etc. Cette réaction confirme les craintes des scientifiques sur les effets de changement climatique. Et enfin, pour plus de légèreté et de joie pour nos amis parisiens, le PSG se qualifie en demi-finale après avoir remporté le match retour face à Barcelone. 4-1, c'est ce qu'il fallait pour une jolie remontada après l'écrasante victoire du Barça en 2017. 6-1, c'était difficile à digérer. Et tout de suite, la météo avec Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour. Il va faire de plus en plus froid. Couvrez bien vos plantes et vos animaux. À l'ouest ce matin, des températures assez basses, mais toujours plus chaudes qu'à l'est. Entre 7 et 6 degrés avec un petit soleil, alors qu'à l'est, on reste à peine à 6 degrés avec quelques pluies éparses. À Paris, grand soleil. Attention à vous, il fait 8 degrés, c'est l'été, sortez les t-shirts. Bien sûr que non, c'est une blague, ne sortez pas en t-shirt. Cet après-midi, un grand soleil sur toute l'île de France. Et non, je rigole, il pleut partout.
Ah là là.
Pour relativiser un peu, ce sera de légères petites pluies éparses, mais sortez quand même les caouets. On attendra entre 9 et 11 degrés cet après-midi. Waouh, il fait chaud et ça fait plaisir ça. Et enfin ce soir, il ne peut plus. Et vous allez pas me croire, mais c'est ensoleillé. Sauf, dans le sud de la Seine-et-Marne, pas de bol pour vous les Seine-et-Marnais. Les températures iront de 6 à 8 degrés. Voilà, je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de vous souhaiter aux Anissais de votre entourage une très bonne fête. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à tout à l'heure pour l'émission Mon mémoire en 60 secondes.
Merci beaucoup Lucie. Mais alors tout d'abord, il est 8h05 et nous retrouvons Akina et le militantisme dans Minecraft.
Chut, pas trop fort.
La matinale de Radio Campus Paris.
Bonjour Akina.
Bonjour.
Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler des formes de militantisme sur Minecraft. Expliquez-nous tout.
Oui, alors déjà, tout d'abord, dites-moi autour de la table, est-ce que vous jouez à Minecraft ?
Oui, moi oui.
Moi non.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est chouette.
Alors, quant à moi, j'ai essayé plusieurs fois d'y jouer en voyant les tutos YouTube de villes magnifiques, mais j'ai vite laissé tomber. Jusqu'à ce que je tombe sur un tweet du syndicat Solidaire Informatique sur le serveur QSMP.
Le serveur QSMP.
Pour nos auditoristes adeptes de Minecraft, ce nom doit vous parler. QSMP est le nom d'un serveur, c'est-à-dire un lieu créé sur Minecraft où divers joueurs se retrouvent et peuvent interagir ensemble, créé par le streamer mexicain Quackity. Ayant pour but principal de réunir des streamers du monde entier au sein d'une histoire commune, QSMP a vu la participation de plusieurs célèbres streamers français, comme Antoine Daniel. Avec une telle affluence, un immense travail est nécessaire pour s'assurer du bon fonctionnement du serveur et de son histoire. Et c'est de là d'où part le problème. Pour gérer cette charge colossale, Quackity a chargé une entreprise, nommée Quackity Studio, de s'occuper de la conduite du travail des nombreux bénévoles modérateurs.
Mais alors, peut-on vraiment les appeler bénévoles s'ils travaillent ?
Eh bien non, pas vraiment. C'est bien pour cette raison qu'une partie des administrateurs du serveur était payée et qu'un statut de salarié était promis à certains. Une majorité d'entre eux n'ont vu qu'une période d'essai sans fin ou un salaire dérisoire, environ 169 euros par mois, payé en retard, comme seul remerciement de leurs nombreuses nuits blanches. Car sous couvert d'amusement et dévouement à la communauté, c'est des cadences infernales qui étaient demandées aux bénévoles, en plus de conditions de travail toxiques. Manque de communication, interdiction de parler entre eux, surveillance et des délais très courts entre autres. Des administrateurs français ont décidé de témoigner et une partie d'entre eux sont désormais en contact avec Solidaire Informatique. Dès que l'affaire est devenue publique, tous les administrateurs français ont été virés du serveur, même ceux qui n'ont pas témoigné. Une partie d'entre eux envisagent des poursuites au prud'homme contre Quackity. Ils réclament un juste salaire pour leur travail.
Ah oui, du jamais vu donc sur Minecraft.
Pas vraiment, la ligne est souvent fine entre bénévolat et travail et ce type d'affaire est récurrente dans le milieu vidéoludique. On peut par exemple penser au serveur Minecraft Erisium. Les communautés de jeux vidéo ne sont par ailleurs pas immunes à la politique, au contraire. On a eu en 2022 la création d'un QG, En Marche, par l'équipe de communication de Macron, qui permet de voir le bilan du président et ses propositions. Récemment, on a pu observer de la propagande pro-militaire russe dans des vidéos qui comptabilisent des milliers de vues, qui reproduisent ou recréent des opérations de guerre en Ukraine, sur Minecraft, à la faveur de la Russie. Une partie des créateurs de ces vidéos sont des membres du groupe paramilitaire Wagner. Plusieurs chercheurs de l'école de commerce de New York ont étudié comment des groupes d'extrême droite et haineux s'infiltrent dans des communautés de jeux vidéo. Autour des jeux Minecraft, il y a des groupes très actifs qui discutent régulièrement sur diverses plateformes comme Discord. Des amitiés et des liens se forgent et c'est là qu'entre les militants d'extrême droite. Aidés par le format guerrier de mode populaire sur Minecraft, c'est-à-dire des fonctionnalités supplémentaires créées par les joueurs tels que World of Tanks, ces militants de la haine les utilisent pour appuyer leurs propos nationalistes.
Eh bien, une super ambiance, dis donc.
Et alors, rassurez-vous, il n'y a pas que l'extrême droite sur Minecraft. Des initiatives progressistes et sociales sont également mises en place. On peut citer la plus célèbre avec la bibliothèque libre de Reporters sans frontières. Située sur un serveur Minecraft, cette dernière regroupe des milliers d'articles censurés, ici accessibles à tous. Greenpeace Brésil a co-créé avec les communautés autochtones de la région du Manicoré un serveur où le joueur incarne un militant qui cherche à empêcher la déforestation de l'Amazonie, tout en apprenant plus sur l'écosystème de la forêt et sur l'histoire et les revendications des populations autochtones de Manicoré. D'autres associations ont également des projets passionnants. Le collectif international Minecraft Education propose des modules d'apprentissage à destination de jeunes élèves sur de multiples sujets dont la justice sociale. Un de ces modes permet par exemple de revivre des événements historiques des mouvements sociaux, tout en partageant des connaissances sur les mouvements antiracistes et féministes.
Eh bien, il ne manquerait plus que les manifestations alors.
Tu ne crois pas si bien dire. Sur Roblox, site constitué de jeux en ligne multijoueurs composés de designs carrés comme Minecraft, mais concurrents de ce dernier, plusieurs manifestations pro-Palestine ont eu lieu, organisées par des enfants qui souhaitaient agir mais dû à leur âge ne pouvaient pas se rendre en manifestation. On a tendance à croire que les enfants sont incapables de comprendre la politique ou s'y désintéressent, mais ces récentes mobilisations en ligne démontrent bien le contraire.
Eh bien, merci pour toutes ces informations, Akina. Qui sait, peut-être bientôt un serveur Minecraft sur Radio Campus Paris.
Chut, pas trop fort. De 8h à 9h sur Radio Campus Paris.
Rebonjour Lucie. Après nous avoir présenté la météo, on vous retrouve dans une interview avec Aristide Landé. Bonjour et bienvenue Aristide.
Bonjour, merci à vous.
Donc bonjour, donc tu es en deuxième année d'études à l'EHESLS, l'école des hautes études en sciences sociales, et tu travailles sur le sentiment d'abandon rural, qui est un sujet que je trouve très très intéressant. Donc je te rappelle les règles, tu dois présenter ton mémoire en 60 secondes, tu seras chronométré. Pas d'inquiétude, on a même prévu un petit timer, histoire de te stresser un petit peu au début. Donc voilà, tu me dis quand t'es prêt.
Mais écoutez, moi je suis prêt. Bah d'abord, écoutez, merci pour l'invitation. Et oui, comme tu l'as si bien dit, Lucie, moi je travaille sur le sentiment d'abandon rural. Alors c'est un phénomène politique qui est apparu à l'aube des années 2000 et qui s'est surtout répandu finalement aux alentours des années 2020, comme on en a pu en entendre parler avec la crise des Gilets jaunes, qui a témoigné finalement de ce malaise profond ressenti dans les campagnes françaises, ou bien plus récemment encore avec le malaise agricole, le malaise paysan, qui a fait ressurgir plus globalement les revendications des habitants des milieux ruraux. Pour traiter de mon sujet, finalement j'ai besoin d'un cadre, évidemment, et j'ai choisi de travailler sur le village de mon enfance, un petit village du Nord Mayenne nommé Vautort, un village de 600 habitants, peuplé essentiellement par les classes populaires. Donc, par classe populaire, j'entends une population qui a évidemment pas forcément fait beaucoup d'études supérieures, la plupart n'ont rien, à part peut-être le baccalauréat ou un bac plus 2. De cette population, ensuite, il a fallu comprendre les revendications. Alors, pour ce faire, je suis allé... Alors, il me reste combien de temps, là?
Ok, c'est pas ça très va. Grave.
Il me fallait, du coup, comprendre les revendications. Je suis allé, du coup, au bistrot, au café du village, lieu de rencontre majeure. Et puis, j'ai posé la question suivante. Pourquoi, aujourd'hui, critiquez-vous l'État? Et pour quelles raisons, en fait, souhaiteriez-vous qu'il y ait des changements? Et la plupart m'ont souligné un aspect très important, qui est les déserts médicaux. Voilà, le sentiment qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. Bref, je vais accélérer et je vais venir directement au paradoxe. C'est intéressant parce que quand on compare la situation de mon village dans les années 60 et aujourd'hui, on comprend qu'il y a plus de médecins aujourd'hui que dans les années 60. Et là intervient le premier paradoxe. Pourquoi c'est aujourd'hui que le sentiment d'abandon rural s'est diffusé si potentiellement dans les arguments qui sont apportés, une réponse étatique elle-même a été apportée? Alors, ok, j'ai un petit peu dépassé, je crois bien. Ok, bah écoutez, je vais faire court. Alors, l'hypothèse que je défends dans ce mémoire, du coup, c'est le fait que le sentiment d'abandon rural est moins lié à une pénurie de services publics, comme on pourrait l'entendre dans les médias, etc., qu'à finalement la déstructuration des collectivités paysannes d'antan. Par collectivité, j'entends évidemment les communautés comme les ethnologues ou les anthropologues ont pu les développer dans divers coins du monde. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Bourdais, je vais commencer avec une question toute bête. Est-ce que tu as apprécié l'exercice?
Eh bien, l'exercice est sympathique, évidemment, parce qu'il me demande à la fois une qualité de réflexion suffisamment poussée pour bien situer ce qu'il faut dire ou pas. Donc forcément, c'est un exercice qui m'a plu.
Et pourquoi est-ce que tu as voulu le présenter à Radio Campus?
Eh bien, écoutez, parce que j'en suis premièrement fier. Parce que je considère que c'est un sujet qui parle à beaucoup de gens, qui a un écho dans la société assez important. J'ai pu m'en apercevoir lors de mes entretiens, parce que j'ai effectué en parallèle du coup de mes recherches pas mal d'entretiens auprès des villageois, de certains, donc de toutes catégories socio-professionnelles, de tous âges, et qui ont accepté, qui se sont prêtés au jeu, parce que chacun avait vraiment des choses à dire sur le sujet. Là où dans beaucoup d'autres, ça n'aurait pas été le cas. Chacun a son point de vue, chacun a ses positions, et chacun défend les siennes, et c'est ça qui est très intéressant et enrichissant pour moi.
Ok, je vois. Et du coup, tu as dit que tu allais faire une partie de tes interviews dans les bistrots.
C'est ça.
Est-ce que tu as eu pas mal d'interviewés un petit peu bourrés?
Eh bien, vous savez, ce n'est pas une légende de considérer que boire un verre en face de quelqu'un, mais directement, enfin, enlève une certaine barrière. C'est-à-dire que boire une pinte, comme moi je l'ai fait effectivement avec mes interviewés, j'ai bu une pinte avec eux et forcément les langues se sont déliées beaucoup plus rapidement. Ça me fait penser à un film, La soupe aux choux, forcément, dans lequel l'un des personnages principaux explique que le pinard, c'est pas seulement du pinard, c'est aussi de l'amitié. Et dans le cas présent, bah, c'est le verre de vin ou la pinte, c'est pareil, c'est pas que de l'alcool, c'est de l'amitié. Voilà.
C'est beau. Et donc, mis à part les entretiens, et au niveau des travaux universitaires, qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de matière? Est-ce que tu as une petite critique à faire par rapport à tout ça?
Eh bien, premièrement, et je pense que ça, je suis pas le seul étudiant dans ce cas-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien sur mon sujet. Voilà. On commence ses études, on se dit bon bah c'est bien, il y a tout à faire. Non, c'est pas vrai. J'ai pu trouver au fil de mes recherches et de mes lectures évidemment des auteurs qui ont traité non de mon sujet mais des milieux ruraux en général. Je peux penser forcément à Henri Mendras avec son classique La fin des paysans qui expliquait dès les années 60 que l'exode rural allait transformer en profondeur le monde rural. avec l'arrivée massive de néo-ruraux. Donc néo-ruraux, ce sont des populations étrangères à la communauté qui s'installent pour d'autres raisons, que ce soit pour des raisons géographiques, pour un travail qui se situe à 5-10 km de leur lieu de vie, etc. Sinon, évidemment, je peux penser à plus récemment à Jean-Pierre Le Goff, qui a aussi fait une monographie de son village d'enfance, donc lui à Cadenas, donc en Provence. Un travail qui m'a permis aussi de mieux comprendre le phénomène que j'essayais de traiter moi, donc le sentiment d'abandon rural. Et puis évidemment, j'en oublie beaucoup, mais on peut remonter loin. On peut remonter à Marx, à Max Weber, etc. À beaucoup de sociologues qui se sont intéressés dès le 19e siècle à ce phénomène de l'exode rural et à ses conséquences.
Ok. Et comment est-ce que tu expliques que des chercheurs contemporains ne s'intéressent pas forcément à cette question-là ?
Eh bien, parce que je pense que ce n'est pas une question qui touche beaucoup de chercheurs. Là où les chercheurs, en fait, viennent surtout des milieux, sans prétention, de milieux urbains et forcément de milieux supérieurs. À rebours de mon existence à moi, qui vient d'un petit milieu rural, etc., plutôt populaire, et qui, finalement, s'intéresse à ce que ne s'intéressent pas les autres. Mais honnêtement, c'est enrichissant aussi pour eux, parce que, pour le coup, j'ai travaillé avec pas mal de chercheurs qui ne se sont jamais intéressés à cette question et qui aujourd'hui me disent « mais j'ai envie de faire la même chose avec un autre village ». Il y a une sorte de relais qui va se jouer et c'est un peu le but aussi de la construction de ce mémoire.
D'accord. Tu as rencontré d'autres étudiants qui travaillent sur des sujets similaires ?
Oui, bien sûr. Bah, écoutez, j'en ai rencontré un donc, qui travaille avec une perspective différente, mais d'ailleurs qui est dans notre promotion également, et qui, lui, s'intéresse plutôt aux politiques de décentralisation de l'État, mais qui rejoint un peu de l'autre côté, mon mémoire.
D'accord. Bon, je reviens directement plutôt sur le contenu de ton mémoire. Donc du coup, tu es allé interroger la vieille et la nouvelle génération.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu conclus de tout ça ? Est-ce qu'il y a des différences assez fortes qui séparent du coup ces deux générations ?
Évidemment. Alors, par vieille génération, personnellement, j'entends les personnes qui ont aujourd'hui 70-80 ans, qui ont connu les mutations du monde rural. Par exemple, je peux prendre le cas de mon grand-père qui est né dans mon village et qui va sans doute y mourir aussi, qui a vu toutes les transformations, donc l'arrivée massive des tracteurs, qui ont forcément fait basculer le sens même de l'agriculture, parce qu'on passait d'une agriculture paysanne à une agriculture entrepreneuriale. Donc forcément, ça a fait évoluer l'ensemble des perspectives du monde rural. Et puis par jeune génération, j'entends les gens de mon âge, évidemment, mes amis d'enfance, que j'ai également eu l'occasion de t'interroger à mon plus grand plaisir. Et les conclusions que je peux en tirer, c'est que les uns et les autres, à leur façon, emploient souvent le même terme pour désigner ce qu'il manque en milieu rural. Et c'est pas le service public, c'est le lien social.
D'accord.
C'est le lien social. Là où les anciens vont parler d'entraide, d'amour qu'il y avait auparavant, les jeunes vont parler du fait que, voilà, aujourd'hui, pour s'intégrer dans un village, faut pas simplement connaître son voisin, faut aussi s'inscrire dans une association. Alors qu'auparavant, encore une fois, les comparaisons nous permettent de mieux comprendre. Dans les années 60, il n'y avait quasiment pas d'association, si ce n'est une association d'anciens combattants, vous savez, une association mémorielle. Aujourd'hui, il y a des associations de foot, de ping-pong, énormément d'associations qui font qu'il y a le maintien d'un lien social, d'un tissu social, mais qui est beaucoup plus faible, évidemment. Donc voilà.
D'accord. Donc du coup, on se retrouve quand même avec des critiques assez similaires. Alors
exactement.
Que
c'est des critiques intergénérationnelles. Chacun les aborde à sa manière, mais elles sont là et unanimes.
Ok, très intéressant. Et du coup, là, je vais bientôt conclure. Ton sujet est différent, j'imagine, que celui que tu as fait en M1. Comment est-ce qu'il a évolué et pourquoi ?
Eh ben non, moi j'ai repris exactement le même sujet. je l'ai approfondi surtout.
Okay.
Parce que pour le coup, moi j'ai vraiment besoin de 2 années parce que c'est un travail qui m'a de recherche assez intense et profond. C'est-à-dire que j'ai fréquenté pas mal de bibliothèques d'abord pour mes lectures personnelles et puis surtout au niveau des archives, j'étais aux archives communales, aux archives départementales. J'ai fréquenté pas mal de lieux de recherche et qui m'a permis vraiment de brosser un portrait très large de mon village et d'aujourd'hui apporter toutes ces conclusions. Voilà.
D'ailleurs, tu parles des archives. Est-ce qu'il y a moyen que tu expliques un petit peu aux auditeurs comment est-ce que ça se passe ?
Eh bien, écoutez, vous prenez votre carte, vous vous inscrivez dans une salle d'archives. Non, je plaisante, ça c'est surtout vrai pour les archives départementales. Non, écoutez, c'est pas compliqué. Vous envoyez un mail à... Par exemple, je vous prends l'exemple de la mairie de mon village, là où les archives sont conservées. Vous envoyez un mail à la secrétaire. qui vous répond, qui vous dit pas de soucis, vous pouvez venir les consulter. Vous vous rendez sur place, vous allez dans la salle des archives, vous avez un sommaire et puis vous regardez un peu ce qui pourrait vous intéresser dans l'ensemble, dans les monticules d'informations et de données qui y sont conservées. Et ce qui vous permet finalement de faire un peu d'histoire.
Et c'est dans quel état ces archives ?
Eh bien écoutez, les miennes, j'ai beaucoup de chance, ont été triées quelques années auparavant ma venue. Elles ont été retriées, donc ça a été un travail pour une commune de 600 habitants, c'est un travail qui a demandé 4 mois complets. Hein. Parce qu'elles n'avaient pas été triées du tout depuis plusieurs décennies. Donc je remercie évidemment l'archiviste itinérante qui est venue, qui m'a facilité le travail. Bah, honnêtement, j'aurais pas pu faire ce travail si elle n'était pas passée. Et j'ai beaucoup de chance de ce point de vue, donc elles ont été bien triées, vous savez, classées, c'était génial.
Du coup, dernière question, est-ce que tu comptes continuer tout ça vers une thèse ?
Non, la recherche m'a fait comprendre que je n'étais pas un chercheur dans l'âme. J'aime beaucoup ce que je fais, mais malheureusement, le monde universitaire n'est pas fait pour moi.
Je comprends, je pense que c'est assez partagé par pas mal d'étudiants.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lucie et Aristide. C'est terminé pour cette interview.
Chut, pas trop fort. De 8h à 9h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Mathis.
Bonjour.
Tu t'es dévouée pour regarder CNews après que celle-ci ait été auditionnée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Alors dites-nous tout.
Alors oui, c'était pas facile, mais j'y suis allée vraiment à fond. Tellement à fond que ce week-end, j'ai fini avec la même voix qu'Elisabeth Lévy, certains le savent ici. Et puis la bonne gauchiste que je suis, bah, j'ai plutôt l'habitude de Libération, France Inter, Mediapart et Le Monde Diplo. Je connaissais pas tellement cette chaîne, je me suis dit qu'il fallait que je la découvre. Raison de plus, le journaliste phare de cette chaîne d'information continue, Pascal Praud, a été auditionné par une sulfureuse commission d'enquête parlementaire sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision. On peut se demander pourquoi une chaîne de télévision est auditionnée à l'Assemblée. Eh bien, les canaux de la TNT où sont diffusées les chaînes de télévision appartiennent à l'État. Ces chaînes doivent donc respecter le règlement de l'ARCOM, donc anciennement CSA. Or, Mediapart a mené une enquête bien complète prouvant que depuis des années, CNews coche toutes les cases de la désinformation en continu et de la promotion de l'extrême droite. Je comprends mieux pourquoi mon grand-père facho adore cette chaîne. Après cette expérience, je pensais que j'allais me coucher moins con après avoir découvert cette magnifique chaîne qui est CNews. Et j'avoue qu'après 50 heures devant, disons que les résultats étaient plus qu'inattendus.
Inattendus, comment ça ?
Ah bah j'avais clairement un début d'AVC, hein. J'avais des propos complètement incohérents. Je disais que les écolos étaient des dangereux islamistes radicaux parce que leur logo est vert comme le vert de l'islam. Là on voit bien que c'est complètement incohérent. Déjà dangereux mais surtout radical pour définir Eva Joly ou même Noël ma mère, ça ne marche absolument pas. C'est comme dire que Kadhafi est une belle personne et que c'est un ami. Enfin, ça marche pas. À part si on est Sarkozy en fait, ça marche. Finalement si ça marche très bien. Et heureusement que j'ai pas continué parce que sinon on allait me retrouver à dire que je vote Bardella aux européennes parce qu'il est beau gosse. Eh ben non, Marie, tu votes pas pour le facho parce qu'il est beau gosse. Assume un petit peu, tu votes pour lui parce que tu détestes les Noirs et les Arabes. Alors Marc, je dis ça, il y en a qui ont voté Macron parce que soi-disant il est beau et on se retrouve avec Darmanin qui déteste aussi les Noirs et les Arabes. En même temps, quand toute la journée sur CNews, on entend Pascal Praud dire ça.
De cette France qui chaque jour oublie ce qu'elle fut.
Ou encore ça.
En ce matin de deuil pour la chrétienté.
Puis je pense que le meilleur, ça a été vraiment une de que Christine Kelly nous a offerte. Vraiment, c'est une grosse pépite.
Je suis toujours accrochée à ses propos lorsqu'il s'exprime. Je suis toujours stupéfaite par ses raisonnements. C'est Philippe de Villiers. Joyeux anniversaire.
Ah bah j'avoue que moi-même, je me suis surprise. Hein. J'étais à la doigt de dire « Oh, bah, bon anniversaire à toi, mon fifi !» C'est vrai qu'il est tellement mignon avec tout ce qu'il dit. Là, là. Il y a un truc que j'ai quand même trouvé bien pour cette chaîne, c'est que ça m'a permis d'inventer un nouveau jeu. Parier avec ses amis combien de secondes, voire de centièmes de secondes, va mettre Elisabeth Lévy pour tirer de la merde. Franchement, c'est la Verstappen des sorties racistes. J'ai même un nouveau slogan pour CNews, montez le volume et rendez-vous à la prochaine connerie. Bon, au bout de la 50e heure, mon cerveau était en train de se liquéfier, littéralement, avec toutes ces conneries. J'ai donc décidé d'abréger mes souffrances en arrêtant de regarder cette chaîne du démon qui est Bolloré. Et piou, ça fait du bien de respirer.
Eh bien, merci Mathie, et on te souhaite de te rétablir vite de cette expérience, qui t'a visiblement traumatisée.
Chut, pas trop fort, la matinale de Radio Campus Paris, ça continue dans un instant. Et d'abord, on marque une petite pause avec le dernier titre de Yoa, Matcha Queen. A tout de suite.
Elle boit du matcha avec ses copines. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal, mais du sparadrap sur son cœur en ruine. Alors qu'elle part à la recherche d'un idéal. Sens, rien n'a de sens.
Alors, est-ce que, à tous, cette musique vous a plu ?
Incroyable. Je ne la connaissais pas, elle est sublime, je l'adore.
Et oui, parce que PA, apparemment, tu aurais écouté cette musique et tu l'aurais dans les oreilles depuis ce matin dans le métro. Dis-nous tout.
Oui, depuis ce matin dans le métro, mais c'était plus café que matcha. Mais là, vous prêchez un convaincu. D'ailleurs, n'hésitez pas, le clip de ce morceau est sorti avant-hier, je crois. Foncez.
Et est-ce que tu aurais vu du coup cet artiste en concert, Yoa ?
Oui, plusieurs fois.
Bah alors parle-nous-en, dis-nous tout.
Mais c'est trop chouette, elle est trop forte, mais vous prêchez un convaincu, juste si ça vous dit, on y va tous après. On n'a pas de date annoncée je crois, mais on fonce.
Je pense qu'on connaissait déjà la réponse à la question au final.
Ce serait vraiment super. Moi, j'aimerais bien découvrir d'artistes dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est vraiment agréable de pouvoir passer leur musique de temps à autre à la radio.
Et aller écouter ces derniers projets, vraiment trop chouette.
Il est bientôt 8h30. On va pouvoir passer à la suite, soi-disant le flash de Pierre-Antoine. Merci beaucoup.
8h30, c'est le flash. Les États-Unis veulent imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque lancée contre Israël le week-end dernier. La Maison-Blanche dit s'attendre à ce que ses alliés fassent bientôt de même. En Europe, l'idée est soutenue notamment par la France et l'Allemagne. Le régime actuel de sanctions, qui ne concerne pour le moment que l'Iran, pourrait être également étendu aux alliés de Téhéran au Moyen-Orient, comme le Hezbollah au Liban ou les rebelles houthis au Yémen, a expliqué le chef de la diplomatie européenne. D'autres voix s'élèvent appelant à la retenue pour éviter une escalade qui aurait des conséquences catastrophiques, selon les mots de Vladimir Poutine. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse lui Israël d'être responsable des tensions dans la région et le qualifie d'état terroriste. Les tensions sont toujours vives et le Hezbollah libanais a d'ailleurs annoncé hier la mort de 3 de ses membres dans des frappes israéliennes. À Gaza, la situation n'en est pas moins compliquée et l'ONU va lancer un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars. En France, 3 membres du cabinet de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, ont démissionné. Son directeur de cabinet, pourtant fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron, son adjointe avec qui elle avait fait ses armes aux côtés de Christiane Taubira, ainsi que sa chef de cabinet, ont tous posé leur démission vendredi. La porte-parole du gouvernement est critiquée pour sa faculté à recracher des éléments de langage ou multiplier les approximations. Il est d'ailleurs aussi reproché à Prisca Thévenot sa dureté envers ses collaboratrices. Sollicité par France Info, le conseiller presse de Prisca Thévenot affirme n'avoir aucun commentaire à faire. Enfin, du sport, et plus seulement du foot. Il n'avait plus joué depuis janvier et il n'a rien perdu de son coup droit. Rafael Nadal a battu hier l'Italien Flavio Cobolli 6-2-6-3 au premier tour de l'ATP 500 de Barcelone. Le tennisman espagnol de 37 ans affrontera au prochain tour Alex de Minaur, numéro 11 mondial. Dans les bassins, Léon Marchand annonce clore sa carrière universitaire pour devenir professionnel. Le Français, déjà quintuple champion du monde, sera à l'affiche des prochains championnats de France à Chartres au mois de juin prochain. Et puis, des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, d'ailleurs, où vous aurez peut-être l'occasion de l'y acclamer. 250 000 nouveaux billets ont été mis en vente hier. Et à 100 jours de ces Jeux, nous retrouvons dans cette dernière demi-heure notre grand entretien avec Odile Morin sur les questions d'accessibilité. Ce sera juste après la chronique de Ninon. Il est 8h32 sur Radio Campus Paris.
Chut, pas trop fort.
Et nous retrouvons tout de suite Ninon. Salut Ninon.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du sport et de la santé mentale.
Alors oui, effectivement, à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, le sport est à la carte. Rugby, danse, gymnastique, basket à trois ou skateboard, chers auditeurs, c'est le moment pour sortir vos plus belles tenues sportives sans honte. La torche des Jeux de Paris a d'ailleurs été allumée avant-hier, mardi 16 avril, à Olympie en Grèce. Et c'est notre championne olympique Laure Manaudou qui est la première relayeuse française à porter cette flamme. Alors non, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je ne vous parlerai pas de l'événement sportif le plus attendu depuis les 4 dernières années. Ou du moins, je ne vous en parlerai pas sous le spectre de l'économie du sport, mais plutôt du sport santé. Car oui, nos sociétés tendent à se sédentariser depuis plus de 95%, de plus en plus, et 95% des Françaises seraient exposées à une détérioration de leur santé à cause du manque d'activité physique selon un article du Monde publié en juillet 2023. À cela, je me permets de vous demander, à vous et à nos auditeurs, si vous connaissez Michelaine Bailly.
Du tout.
Pas du tout non plus.
Absolument pas. Alors, si c'est un nom unanime, c'est plutôt normal. Pas d'inquiétude, cette femme de 82 ans est championne de France du 60 mètres dans la catégorie des 80-85 ans, avec un record de 12 secondes et 90e centième. Cette sprinteuse est notre référence du jour, car elle inspire au sport comme personne. Elle le dit, courir est une drogue douce qui me maintient en forme. Alors, vous ne rêvez pas, le sport serait apparemment bon pour la santé physique. Donc certes, mais aussi pour la santé mentale. En effet, la Haute Autorité de Santé valide l'activité physique comme thérapeutique. Elle aurait des effets positifs sur la dépression selon une méta-analyse de 218 études portant sur 14 170 patients de plus de 18 ans souffrant d'un trouble dépressif majeur. Selon cette étude, les sports dits les plus efficaces seraient la marche, le jogging, le yoga, le renforcement musculaire et la danse. Alors, PA et Manzata, à quand votre petit duo de Zumba dans le studio de Radio Campus Paris?
C'est parti.
C'est parti, let's go.
Non, plus concrètement, que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous pratiquez une activité physique? Parlons de trois hormones fondamentales qui donnent au sport sa popularité grandissante. L'endorphine, la sérotonine et l'adrénaline. Si ces hormones ne vous sont pas familières, votre corps les côtoie régulièrement. En effet, l'endorphine sécrétée après 30 minutes d'effort physique est la principale responsable d'un sentiment très prisé chez les sportifs de haut niveau, qui est l'euphorie. Ensuite, si vous êtes de nature anxieuse, la sérotonine deviendra votre meilleure amie, car elle permet de réguler votre humeur et de diminuer votre anxiété. Enfin, la star des hormones, aussi appelée l'adrénaline, est cette sensation d'électrochoc vous permettant de vous concentrer sur un objectif bien précis. Alors maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de dénier le sport et acceptez la réalité. Le sport permet de développer la motivation et la cognition sociale tout en renforçant les effets positifs sur le bien-être émotionnel. Le sport est loin d'être votre ex toxique. Donc, chères auditrices et auditeurs, à vos baskets et à vos brassières de sport, allez entraîner vos petits cœurs et développer vos émotions positives. Et comme le dit Michael Jordan, n'ayez pas peur d'échouer, ayez peur de ne pas essayer.
Alors prenez soin de vous, prenons soin de nous. Merci beaucoup Ninon.
Merci à vous.
Chut, pas trop fort.
La matinale de Radio Campus Paris.
Et à 8h35, on retrouve Akina et Mati pour nous parler d'accessibilité et de JO avec leur invité Odile Morin. Bonjour.
Bonjour. Alors les Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu dans exactement 100 jours à Paris. Et quand on pense à Paris, ce n'est pas forcément un synonyme d'accessibilité. Ah si, la ligne 14, mais bon, elle est actuellement en travaux. Et oui, on lâche des flashs à faux, on n'est pas du tout en retard. C'est plus précisément donc de l'accessibilité et de la dignité des personnes en situation de handicap visible et non visible dont nous allons parler aujourd'hui avec Odile Morin. Bonjour Odile Morin.
Bonjour.
Alors Odile Morin, vous êtes militante pour le droit des personnes handicapées, présidente de l'association Handisocial, et vous êtes également connue pour votre soutien au mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement annonce que ces Jeux seront un tournant majeur en faveur de l'accessibilité. Il est vrai que ce sont les Jeux Olympiques qui ont le plus mis en avant leurs mesures d'accessibilité. Rapidement, Odile Morin, pensez-vous que c'est un gros coup de pub fait par le gouvernement ou peut-on se réjouir de ces avancées?
Alors, il n'y a aucune avancée, il faut être tout à fait clair là-dessus. Depuis 50 ans, on stagne pour ne pas dire qu'on recule. Comment l'ONU évoque la politique française du handicap, il utilise trois termes, ségrégation, privation de liberté, atteinte aux droits humains. On n'a pas été foutu depuis 50 ans de mettre en accessibilité le métro de Paris et la RATP continue à cacher le rapport qui permettrait de réaliser les travaux sur un certain nombre de stations. La ville de Paris parle de faire des quartiers d'accessibilité augmentée, c'est-à-dire de créer des ghettos où on aura le droit de circuler à l'exception des autres endroits. Et comme pour tous les Parisiens et pour tous les visiteurs, Paris va être encore plus dur à circuler pendant la période des JO et encore plus pour les personnes handicapées, puisque on sera soumis à une sécurité, à une surveillance de masse qui, je crois, n'a jamais été atteinte. Mmh. Et puis surtout, ce qu'il faut poser comme problématique, c'est qu'est-ce que les JO véhiculent et à quoi ils servent. Est-ce que c'est un moment de cohésion populaire ou est-ce que c'est un grand moment de consommation, de business et de mise en avant d'idées qui sont très validistes.
Alors justement, les pouvoirs publics assurent que tout sera mis en œuvre pour accueillir comme il se doit les quelques 350 000 personnes en situation de handicap qui viendront assister à l'événement. Donc sur les 15 millions de visiteurs attendus au total, pour ça l'État dit avoir mis les moyens, 1,5 milliard d'euros débloqués au mois d'octobre dernier, notamment pour rendre les transports plus accessibles dont vous parliez. La délégation interministérielle en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques promet que tous les sites seront entièrement accessibles. Un système de navette serait normalement prévu dans la capitale et pour pouvoir rejoindre facilement les différents sites olympiques. Et il y a 400 heures d'épreuves qui seront en audio-description. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en réjouir?
Alors, on peut surtout être assez sceptique, puisque ce gouvernement, depuis 2017, passe son temps à mentir, et je ne vois pas qu'est-ce qui change aujourd'hui et qui ferait que ce qu'il dit est vrai. D'autant plus qu'on n'a pas vu de transformation particulière des transports à Paris, que les navettes qui vont être mises en place sont des navettes qui seront réservées aux personnes avec des handicaps moteurs. Rien ne sera fait pour les personnes avec des handicaps cognitifs, mentaux et autres. Qu'on va de toute façon être dans ce qui nous pose le plus gros problème, c'est quand même quelle image on va véhiculer. C'est qu'au travers des JO et des JO paralympiques, l'accent il est mis sur le dépassement de soi de la personne handicapée, voire sur le dépassement du handicap. Et qu'en fait, ça correspond à une médiatisation stéréotypée qui est délétère pour les personnes handicapées. Parce que ça présente le handicap comme un problème contre lequel on doit lutter, qu'il faudrait surmonter afin d'atteindre la norme valide.
Alors, effectivement, je comprends, mais du coup, justement, on avait une question. Parce que le discours des JO, comme vous l'avez dit, est beaucoup sur le dépassement de soi, sur les performances athlétiques, etc. Est-ce qu'au final, cette question de dépassement de soi, bon, on peut clairement dire qu'elle est certainement validiste, mais est-ce qu'au final... Comment expliquer cela? Est-ce que cette question de dépassement de soi ne serait pas aussi quelque chose qui peut être bénéfique aussi pour les personnes handies? Puisque ça peut mettre en avant justement les personnes handies en général pouvant se dépasser.
Alors d'abord, est-ce que le but de la vie de se dépasser, ça peut-être être la question, mais surtout, combien de personnes handicapées vont se dépasser et combien surtout ne vont pas être en capacité de se dépasser et vont se sentir encore plus mal après. Parce qu'en fait, on se sert de la figure de quelques personnes pour finalement vendre l'idée qu'il est possible de se dépasser. Et ça sous-entend quoi? Ça veut dire que ceux qui ne se dépassent pas ne méritent pas les mêmes privilèges que ceux qui se dépassent. En plus, c'est une question qui est très dépolitisée, c'est-à-dire que la question du validisme, c'est une question qui est en lien avec une société productiviste qui veut des corps normés pour être rentable à court terme. Et finalement, elle accorde des privilèges aux quelques personnes qui se dépassent et en contrepartie, elle accorde beaucoup de ségrégation et elle relègue beaucoup et elle discrimine beaucoup celles qui ne rentrent pas dans ce cadre-là.
Est-ce que vous pensez que ce manque d'accessibilité et de validité...
élite qui n'est pas du tout représentative des autres personnes handicapées.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que le manque d'accessibilité et le validisme de ces jeux met plus en lumière médiatiquement, mis très en lumière du coup médiatiquement par les JO, vont ainsi donner une préoccupation peut-être plus importante dans l'opinion publique justement du manque d'accessibilité en général du sport et surtout des enjeux validistes de tout ce qui est l'olympisme?
Absolument pas, puisque ça va montrer que certains arrivent à dépasser et que finalement, il n'y a pas de problème puisqu'ils dépassent sans mettre en cause. C'est-à-dire qu'en fait, on va encore renvoyer à des questions à des questions médicales, à des questions individuelles, la responsabilité de pouvoir mener une vie normale dans la société, alors que l'obstacle principal, c'est quoi ? C'est le manque d'accessibilité. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire des exploits ? Est-ce que les personnes valides sont sommées de faire des exploits pour se déplacer, pour aller au travail, pour aller à l'école ? Non, pourquoi est-ce que les personnes handicapées seraient sommées de faire, elles, des exploits ? Les personnes handicapées, elles doivent simplement se trouver dans un environnement qui prévoit l'accessibilité, mais qui prévoit aussi la compensation du handicap. C'est, vous voyez, on va mettre en avant des athlètes et dans le même temps, on en est à refuser de financer les moyens de compensation des personnes handicapées dans ce pays. On en est à considérer que bénéficier d'un fauteuil roulant adapté, ce n'est pas simplement répondre à un droit à l'égalité.
Et donc, justement, tout ça, ça dans le cadre des Jeux Olympiques, le gouvernement font appel à des travailleurs en ESAT où ces institutions ont souvent été critiquées autant par les personnes qui y travaillent que des associations handicap pour le manque de droits attribués à ces travailleurs. Du coup, qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, cela illustre bien l'hypocrisie du gouvernement ? Est-ce que vous dénonciez dans ce que vous nous disiez tout à l'heure ?
C'est un nouvel exemple du validisme, parce que qu'est-ce que c'est qu'un ESAT ? C'est un lieu où des personnes handicapées travaillent sans percevoir le SMIC, sans droit de grève, sans droits syndicaux, sans droit à la retraite, sans percevoir le salaire minimum, et en plus, les organisations qui exploitent ces travailleurs handicapés vendent leurs produits en se présentant comme des personnes qui favorisent la vie des personnes handicapées alors qu'elles les exploitent. On voit bien, et puis c'est tout le principe aussi de tout le bénévolat auquel le système des JO fait appel. Quand on voit les salaires scandaleux d'un certain nombre de dirigeants qui organisent les JO et qu'on va faire encore appel aux bénévolats, on voit bien qu'on est dans une société qui n'est pas du tout égalitarienne et que l'égalité, elle ne se construit pas de toute façon par le biais du seul sport ou d'un événement qui a lieu tous les 4 ans, mais ça se construit d'abord par l'accès à l'école, au travail, à tout ce qui est garanti aux citoyens lambda, en somme.
Tout à fait. Mais Odile Morin, justement, certains pensent que les ESAT sont une chance pour les personnes en situation de handicap. Certains pensent qu'il s'agit
alors,
d'une exploitation validiste. Mais oui, c'est ça. Mais certains aussi disent que c'est une exploitation validiste pure et simple, calquée sur le modèle des warehouses britanniques. Et puis, c'est vrai qu'avec les informations que vous nous avez données, ça y ressemble assez. Enfin, ça y ressemble franchement.
Mais c'est un choix politique dans ce pays d'avoir considéré qu'il fallait ségréguer les personnes pour leur permettre de travailler. Un autre choix était possible, c'était celui de dire que toutes les entreprises doivent avoir un pourcentage et pas 6% de travailleurs handicapés, et quel que soit le niveau de handicap. Parce que d'abord, il y a 15% d'une population qui présente des handicaps dans une population donnée, hein, c'est des données de l'OMS. En plus, le sport favori des entreprises aujourd'hui, c'est de choisir les personnes qui ont des handicaps qui sont, je dirais, ceux qui posent le moins de contraintes et qui demandent le moins d'aménagement. En fait, ils veulent des handicapés, mais sans handicap. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et tout ça pour réduire les pénalités, pas pour permettre que tout le monde participe à la vie en société. Donc, on est dans une société quand même qui est très viciée. Et en fait, on va se servir de l'image des sportifs handicapés pour véhiculer encore une image de c'est possible de réussir, c'est une question de volonté, alors même que ce qui est en cause, c'est l'organisation de la société, c'est la manière dont elle est construite et le fait qu'on privilégie les corps valides par rapport aux corps invalides. Et voilà. Et puis, il faut dire aussi que la difficulté, c'est que les sportifs, les handisportifs, les paralympiques, pour continuer à avoir des sponsors, sont peu critiques sur ce à quoi ils participent. Et tout ça en fait, de mon point de vue, une grande farce.
Parce que, justement, la DIJOP affirme que 100% des sites de compétition seront accessibles pour que les spectateurs handicapés puissent, autant que ceux valides, assister et participer aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que le gouvernement tiendra cet engagement et que ces aménagements seront pérennisés ?
Bah d'abord, le 100% accessible, je peux vous assurer que en tant qu'élu, je vais régulièrement visiter des constructions neuves qui ne sont pas contrôlées correctement. Donc, les normes d'accessibilité sont rarement respectées, elles sont rarement comprises. On n'a pas formé les architectes. Donc, je suis bien tranquille qu'il y aura bien quelques couacs par-ci, par-là, parce que de toute façon, encore une fois, on confie à des valides qu'on ne forme pas le fait de réaliser des équipements accessibles. Et donc, forcément, ça foire. Parce qu'on est dans l'intention plutôt que dans la réalisation. et que on n'a toujours pas compris que c'est une question de droits humains, que c'est une question d'égale dignité, et que aujourd'hui, ce qui nous empêche de participer à la vie en société, ce ne sont pas ni nos incapacités ni nos déficiences, c'est bien les choix politiques qui sont opérés dans ce pays depuis plus de 50 ans, les choix en termes d'organisation, les choix en termes d'aménagement de l'espace public, les choix en toute matière, et qu'on est dans une grande farce à laquelle ne comptez pas sur nous pour soutenir ça. Et je vous invite vraiment en plus à aller voir ce que fait sur Paris le CLAV, le comité de lutte antivalidiste, hein, qui effectivement a produit déjà des écrits et des paroles sur cette question-là. Et je sais qu'il y a aussi des projets d'Olympiade populaire pour contrer un peu ce qui est en train de se faire, cette grande messe qui va surtout rapporter des moyens financiers à quelques-uns et toujours au détriment du plus grand nombre, et qui va durablement empêcher une majorité de Parisiens et de gens extérieurs de circuler librement dans Paris, alors que c'est déjà extrêmement difficile.
Alors, en parlant de la circulation libre sur Paris, on va parler de transport justement, Île-de-France Mobilité et la RATP avaient promis l'ouverture de 4 nouvelles lignes de métro 100% accessibles, notamment aux personnes à mobilité réduite, à Paris, pour compléter la ligne 14, qui est la seule ligne de métro entièrement accessible. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait qu'une seule ligne de métro accessible, et concrètement, comment cela impacte le quotidien des personnes à mobilité réduite? C'est ça ma question, Odile.
Alors, d'abord, quand on dit qu'une ligne est entièrement accessible, la ligne 14 n'est pas entièrement accessible. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est accessible avec l'aide d'un tiers, mais donc elle n'est pas entièrement accessible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre votre métro librement, sans demander de l'aide, sans appeler qui que ce soit. Elle n'est pas accessible en autonomie. Et l'accessibilité, c'est en autonomie, sinon ce n'est pas de l'accessibilité. Et après, les lignes, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une nouvelle ligne qui avait ouverte et qu'elle permettait de se rendre partout dans Paris.
Et justement, pour parler d'accessibilité, mais sur un autre point, en ce qui concerne les personnes sourdes, pour la traduction en langue des signes, ce sera fait par des bénévoles d'après la DIJOP. Du coup, que pensez-vous de cette situation ?
Écoutez, c'est comme si la France accueillait les Russes ou les Tchèques ou les Paraguayens avec quelques Français qui baragouinent un peu, on aurait l'air vachement sérieux. La langue des signes française est une vraie langue, elle nécessite de vrais apprentissages, elle nécessite des professionnels qualifiés et pas quelques personnes qui vont faire 3 signes, qui vont être mal compris. Encore une fois, c'est un manque de respect pour les personnes handicapées et ça relève de la communication outrancière.
Et justement, pour vous, de quelle manière le comité olympique et le gouvernement auraient pu rendre ces JO plus accessibles ? Concrètement, qu'est-ce qu'il manque ?
Déjà, la France aurait respecté les propres lois qu'elle a émises depuis 50 ans. On n'aurait pas le retard qu'on a accumulé. La France aurait obligé ses maîtres d'œuvre, ses architectes et tous ses professionnels à se former sur les contraintes d'accessibilité et à appliquer intelligemment la réglementation, on n'en serait pas là. Et puis surtout, si on avait voulu faire des Jeux fraternels, d'abord, il n'y aurait pas une distinction entre Jeux paralympiques, Jeux olympiques, DIF olympiques. Tous les athlètes seraient ensemble et on aménagerait l'exercice d'un certain nombre de sports de façon à l'adapter à tous et de permettre la participation de tous. Là, pour l'instant, c'est des filières, je dirais, des formes de ségrégation qui sont faites, et en plus avec un traitement différencié des athlètes qui est là non plus pas acceptable. Et puis, est-ce qu'il n'y a rien pour les personnes avec un handicap psychique, rien pour les personnes autistes, rien. Enfin voilà, c'est encore une fois de la communication qui va coûter très cher à ce pays, et plutôt que d'investir durablement dans les moyens de notre participation à la vie en société à égalité avec les valides, on continue à faire de la communication, c'est assez habituel et ça devient extrêmement lassant.
Ça tombe très bien que vous ayez parlé justement des personnes atteintes de troubles psychiques ou même ayant des difficultés de santé mentale, puisque le grand absent finalement de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la question de la santé mentale. La question de la santé mentale chez les sportifs en général, et surtout les Jeux Olympiques ne traitent absolument pas des questions de santé mentale. Pour vous, pourquoi ils ne traitent absolument pas de ces questions-là qui sont quand même vitales ?
Parce que ce n'est pas le but des Jeux Olympiques. Rappelons quand même sur quoi étaient fondés les Jeux Olympiques et qui était Pierre de Coubertin. Je suis une ancienne sportive, j'adore le sport, mais pour moi, le sport, ça doit rester un jeu. Ce n'est pas un moyen, c'est pas un concours de quéquette normalement.
Ouais, c'est très clair au moins.
Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'accessibilité soit vraiment mise en place. Merci beaucoup.
Merci à vous, Edil Morin. Merci à Mati et à Kina pour cet entretien. Il est 8h52 sur Radio Campus Paris.
De 8h à 9h.
Chut, pas trop fort.
Sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, elle s'est levée tôt et a lu la presse pour vous. On retrouve Akina.
Bonjour, bonjour Akina. Enfin, rebonjour du coup. Oui, pardon, excusez-moi. Du coup, j'ai pu, en me levant à 5h du matin, lire un peu la presse et essayer de sélectionner quelques articles pour en faire un résumé. Donc, à 100 jours des Jeux Olympiques, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, plusieurs journaux ont décidé de mettre le sport en avant. Libération donne la parole à deux athlètes, Mélina Robert-Michon, sportive de 44 ans, spécialisée dans le lancer de disques et médaillée d'argent à Rio, et Sia Dembélé, Sissi de son nom de scène, jeune artiste de breakdance de 16 ans, médaillée de bronze au championnat d'Europe de breakdance 2023 à Almeria et des championnats du monde à Louvain. Le quotidien met en avant les similarités des deux professionnelles. Originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, elles se battent toutes les deux pour pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais surtout, elles luttent contre les stéréotypes sur leur âge et leur genre. Ces deux paramètres ne doivent pas être des obstacles, affirme-t-elle, ce qui est encore bien souvent le cas. Le Monde, quant à lui, nous dévoile un entretien avec l'ancienne ministre de l'Éducation et désormais ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Consacrée à la question des Jeux Olympiques, les journalistes questionnent la ministre sur des sujets allant de la participation des sportifs russes aux compétitions à la sécurité du public, suite aux menaces proférées par l'État islamique il y a quelques jours envers la Ligue des champions de football, jusqu'aux coûts et conséquences économiques des Jeux Olympiques sur le pays. Celle-ci affirme que les Jeux vont rapporter beaucoup plus à la nation qu'ils ne lui auront coûté. Pour terminer, une actualité sans lien avec le sport. L'opération Place Net à Mayotte, la suite de la vivement critiquée opération Wambushu, a été lancée hier. France Info revient sur les conséquences de cette opération, consistant à démanteler les nombreux bidonvilles de Lille, ce qui serait, d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la meilleure manière de lutter contre la criminalité et l'habitat insalubre. Cependant, comme le journal l'explique, entre 200 et 500 personnes, d'après la préfecture, seraient encore en attente d'un relogement un an après l'opération. En ce qui concerne la sécurité, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenot, affirme que les chiffres concernant les crimes d'atteinte aux personnes ont baissé en 2023. Ce n'est pas l'avis de Mansour Karmadine, député LR, pour qui rien n'a changé, ni de Yasmina, représentante du collectif Force Vive, qui explique à France Info que Mambouchou a déclenché encore plus de violence, poussant les bandes criminelles à mieux s'organiser d'après elle. Concernant les problèmes d'accès à l'eau potable récurrents à Mayotte, les habitants connaissent toujours des difficultés et des coupures régulières continuent à être annoncées. Marie Guévenot a annoncé que l'État avait engagé 100 millions d'euros et distribué 37 millions de litres d'eau pour pallier à ce problème. Enfin, concernant l'annonce de Gérald Darmanin sur la suppression du droit du sol à Mayotte, les habitants sont toujours dans le flou car la réforme est toujours en débat.
Merci Akina. Tout de suite, avant de clore l'émission, une nouvelle proposition musicale. On va vous passer What Have You Done de Kevin Heartbeats, un jeune artiste qui produit de la musique avec des jeux pour enfants. Écoutez bien. How many houses, but you never found a home. Different pleasures, different flavors, but it never felt like one. Always built your things on sliding ground. One day you'll get swallowed by the world. Don't wanna be mother while alive.
The smoke runs faster and your legs get sore.
Chute pas trop fort, c'est déjà fini, on vous libère. Merci à toute l'équipe de journalistes et chroniqueuses, Akina, Mathie, Lucie, Ninon. L'émission vous a été présentée par Mansata et PA, réalisée par Colin. Et n'oublions pas Marie-Claire et Lise qui ont aussi travaillé à cette émission.
Nous vous souhaitons alors une bonne journée sur Radio Campus Paris. C'était Chute pas trop fort et vous pouvez remonter le volume.